la revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes ce matin de retour à Minneapolis, là où tout a recommencé il y a deux semaines pour le mouvement Black Lives Matter.
Oui, alors que le mouvement entre dans sa troisième semaine depuis la mort de George Floyd entre les mains de la police de Minneapolis, la ville du Minnesota refait la une des journaux américains aujourd'hui parce que son conseil municipal dit vouloir rien de moins que démanteler sa police municipale pour refonder un nouveau modèle de sécurité publique qui serait cette fois vraiment au service des citoyens. Je cite là le New York Times qui cite lui-même l'engagement pris par la majorité écrasante du conseil municipal de Minneapolis. Il s'agit de donner raison aux centaines de milliers de marcheurs de ces dernières semaines pour dire, avec leur principal mot d'ordre, que le racisme systémique et l'impunité des services de police aux États-Unis sont telles qu'il ne suffira pas de les réformer une énième fois. Ça ne marchera pas cette fois comme ça n'a pas marché les fois précédentes. Il faut donc fermer, abolir ces services corrompus en profondeur par le mal raciste, conçu même à son image, en réinventer d'autres, avec d'autres moyens, d'autres missions, d'autres chefs, en somme, une nouvelle philosophie du maintien de l'ordre. En affirmant cette volonté très forte, les élus municipaux de Minneapolis, nous dit Newsweek, se rangent du côté de la rue et ils désavouent complètement le maire de la ville. Jacob Frey, puisque c'est son nom, avait été hué par la foule dans la manifestation de samedi quand il avait refusé de répondre « yes » à l'une des principales demandes des marcheurs de Black Lives Matter, à savoir le démantèlement de sa police municipale. Obligé de quitter le cortège devenu hostile samedi, Jacob Frey se retrouve donc aujourd'hui cornérisé par son propre conseil municipal, confirme USA Today. Et ça illustre bien la force de ce mouvement américain qui bouscule depuis deux semaines les forces politiques établies et qui commence, il faut bien le dire, on le constate, à transformer vraiment la société américaine à force de pacifisme et de détermination. L'une des leaders de cette contestation, Candace Montgomery, se réjouit d'ailleurs dans le New York Times de voir que les lignes commencent à bouger. Elle se redit convaincue que, je cite, « nous serons tous plus en sécurité sans ces patrouilles armées et toutes puissantes payées par notre argent public pour mener la chasse aux Noirs ». Et de regretter qu'il ait fallu tant de morts avant d'en arriver enfin là.
Et bien loin de Minneapolis, la mort de George Floyd a réveillé une colère raciale très profonde en Australie.
Oui, c'est l'une des autres grandes forces de ce mouvement de raisonner avec d'autres combats contre les brutalités policières et discriminations raciales. En Australie, note l'édition nationale du Guardian, les aborigènes ont repris le flambeau allumé par le meurtre de George Floyd. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont repris samedi à Melbourne les slogans de Black Lives Matter, mais en y ajoutant très naturellement ceux de la cause aborigène. La dénonciation de la surincarcération criante des jeunes issus de cette communauté, le nombre inacceptable de morts en détention de ces mêmes jeunes et la triste banalité des violences dont ils sont victimes de la part de la police australienne. Pour s'en convaincre avec la chaîne télé ABC, il suffit de visionner les trop nombreuses vidéos d'arrestations violentes ou dégradantes subies par ces aborigènes et qui ont fleuri sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des cas isolés, confirment toutes les personnes interrogées par la chaîne. On retrouve dans ce reportage les mêmes mots que ceux prononcés par les Afro-Américains, le fait qu'on élève les jeunes ici comme là-bas à vivre avec la menace policière, à ne pas courir, surtout au risque d'y laisser sa vie. En guise de réponse, le gouvernement conservateur australien de Scott Morrison a jugé bon ce dimanche de qualifier d'incroyables égoïstes les manifestants de la veille, les accusant à demi-mot de risquer une nouvelle propagation du coronavirus en bravant les règles de distanciation pour manifester malgré l'interdiction qui leur avait été faite. Les marcheurs de samedi ne sont pas égoïstes mais incroyablement courageux, répond cette fois un lecteur du Sydney Morning Herald dans le courrier du journal, évoquant le courage donc qu'il faut aux Australiens pour cesser enfin d'être complaisants, de détourner le regard face à l'injustice systémique infligée aux aborigènes. Le problème, affirme enfin la professeure de droit Megan Davis dans le même Sydney Morning Herald, c'est que des manifestations de ce genre, eh bien, il y en a depuis au moins 30 ans en Australie, comme aux États-Unis d'ailleurs. Ici comme là, la question est donc de passer du constat de la dénonciation au véritable changement. Les aborigènes qui meurent par centaines en prison, affirme l'auteur, qui est elle-même issue de cette communauté, meurt non pas à cause de brutalité subie, mais bien d'un manque de soins de la part des surveillants pénitentiaires. Accorder de la valeur à la vie de ces hommes et de ces femmes, c'est donc avant tout leur rendre leur humanité et la considération qu'ils méritent autant que tout autre. C'est aussi plus généralement redonner une place aux aborigènes dans la démocratie australienne, leur permettre de décider d'eux-mêmes sur les sujets qui les concernent.
Et en la matière, l'actualité récente, par exemple en Australie, nous a donné un bon contre-exemple.
Oui, c'est vrai, c'est-à-dire notamment dans le Financial Times, la compagnie minière anglo-australienne Rio Tinto voit sa réputation très sérieusement écornée sur l'île parce qu'elle a réduit en poussière le mois dernier un site aborigène sacré de la plus haute importance dans les gorges de Jukan, deux grottes qui portaient les traces d'occupations humaines ininterrompues depuis au moins 46 000 ans. Tout cela donc a été pulvérisé au nom de la raison économique du premier producteur mondial de minerai de fer. De nombreuses voix en Australie s'étaient élevées contre ce saccage annoncé des investisseurs internationaux de Rio Tinto. C'était même prononcé contre au nom de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Mais les projets miniers australiens n'arrêtent pas leur effrayante expansion pour si peu. C'est ce que laisse entendre le quotidien The Australian. Les habitants aborigènes de cette région, eux, n'ont tout simplement rien pu faire pour sauver leur patrimoine. Ils contestent l'affirmation de Rio Tinto selon laquelle les propriétaires du site avaient donné leur accord à son exploitation. De toute façon, constate le Financial Times, la loi australienne ne protège pas suffisamment le droit au consentement des aborigènes en ce qui concerne leur culture. Le ministre en charge de ces questions a promis de changer les lois. Trop tard, toutefois, pour sauver les grottes de Jukan.
Merci beaucoup, Camille Magnard, pour cette revue de presse internationale.